Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Ravi et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous nous écoutez à la maison, dans votre bureau, au marché ou ailleurs. Eh bien, vous êtes connectés sur la fréquence de la paix. Merci à tous les internautes qui nous écoutent à travers le monde. Comment faciliter l'emploi, l'accès à l'emploi des jeunes? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission avec Madame Alice Mirimo Kabeti. Elle est directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux. Madame Alice, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Philippe Nguala Malemba. Il est le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégrée du développement communautaire. Monsieur Philippe Nguala, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer à ce programme? Le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangassa à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Okapi Service, à votre service.
Bien, de nombreux jeunes Congolais se retrouvent au chômage après leurs études universitaires. Et pourtant, l'article 36 de la Constitution stipule que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Et ce qui a motivé la mise en place d'un projet de portail électronique qui va fonctionner à l'ONEM pour faciliter l'accès à l'information sur les opportunités d'emploi. En plus de cela, un répertoire opérationnel des métiers et des emplois sera conçu. Il présente l'ensemble des métiers regroupés par fiche, organisés par domaine professionnel. Un projet du Fonds national des promotions et des services sociaux avec le financement de la Banque africaine de développement. Pour en savoir plus, nous allons accueillir nos invités. Nous commençons avec Monsieur Philippe Nguala Malemba, qui est le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégrée des développements communautaires. Monsieur Philippe, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons de l'emploi des jeunes. Comment faciliter l'accès aux jeunes? Nous savons que le chômage bat son plein dans notre pays. Beaucoup de jeunes se retrouvent au chômage après leurs études. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer un tel projet, un portail électronique pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes?
Oui, cette initiative donc fait partie du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, qui est un programme initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme a été récemment adopté en Conseil des ministres, le 11 février 2022. Et c'est un programme qui est coordonné sur le plan stratégique au niveau de la présidence par la CAPIDC, la cellule que je coordonne, et qui est mise en œuvre au niveau du gouvernement par le Fonds national des promotions et des services sociaux. Le programme vise essentiellement à pouvoir créer des emplois massifs décents pour les jeunes prioritairement, ainsi que des opportunités d'insertion socio-professionnelle durable. Et nous avons fait un travail pendant 2 ans qui a consisté à identifier des filières porteuses de croissance et des filières à grand potentiel de création d'emplois. C'est ce qui a permis qu'on ait élaboré ces programmes PUDC. Et dans le cadre donc de ces filières, nous avons, après les analyses qui ont été faites très approfondies sur terrain, nous avons vu qu'il faut commencer par valoriser tous les métiers. Et donc ces métiers ont été identifiés dans chacune des filières porteuses. Nous avons identifié d'innombrables métiers innovants dans toutes les chaînes de valeur. Et nous sommes en train.
Lesquels, par exemple?
Ben, je vous donne, par exemple, on parle de la filière manioc aujourd'hui. Il y a une affaire de 40 métiers qui sont identifiés dans la filière manioc. Mmh. Je peux donner juste un exemple. On veut former des jeunes qui soient agri-multiplicateurs de boutures du manioc. C'est tout un métier, qui peut, s'il est valorisé, nous aurons des jeunes spécialisés dans ces domaines qui vont créer des entreprises, d'agri-multiplicateurs, donc des boutures du manioc. Et qui auront un revenu décent, et voilà, ça fait partie donc des opportunités. Mais on ne peut pas avancer si on n'a pas un référentiel de ces métiers. Il faut normer ces métiers, et c'est ce qui s'est fait selon les standards internationaux. Il faut avoir un référentiel, et en élaborant ces référentiels, ça nous amène à obtenir ce qu'on appelle un répertoire opérationnel de métiers et des emplois.
Que vous appelez Rome.
Rome, voilà. Mm. Et nous sommes à cette étape-là. Nous sommes en train de réfléchir donc si ces référentiels. La RDC se dotera dans les jours à venir de ces référentiels qui sera numérisé et qui est essentiel, capital, je dirais même indispensable pour parler aujourd'hui de la création des emplois.
Bien. Madame Alice Mirimo, vous êtes directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux. Vous allez mettre en place un portail électronique. Je me demandais toujours, est-ce qu'il s'agit d'un site internet? De quoi s'agit-il exactement? Et Rome, c'est quoi? C'est un logiciel, etc. Alors dites-nous, comment ça, c'est quoi exactement ce portail électronique?
En fait, merci beaucoup, Monsieur Jody. Je dois d'abord préciser que le portail électronique dont il est question va être mis en place au niveau de l'Office national de l'emploi, l'ONEM. En fait, ce projet a comme bénéficiaire direct, donc les services publics directs qui vont bénéficier de ça, c'est l'ONEM, c'est l'INPP, ce sont les services du ministère de la formation professionnelle, arts et métiers, les services du ministère de la jeunesse. En fait, l'objectif au niveau du PUDC, que le conseil spécial vient déjà d'expliquer, c'est que le pays puisse ouvrir des horizons particulièrement pour les jeunes et les femmes, parce que ce sont là les énergies que nous avons chaque jour et qui sont soit sous-utilisées ou qui ne sont même pas utilisées. Or, c'est en faisant tous ces outils que nous allons avoir un mécanisme cohérent de création d'emplois. Et donc, tous ces services ont été avec nous hier pendant cette réunion d'harmonisation. Mais comment le FNPC s'est retrouvé dans ce dossier? C'est parce que le Fonds national de promotion et de services sociaux est cet instrument financier de l'État qui a comme mission d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement et de servir de banque sociale. Et donc notre rôle, c'est d'identifier les causes majeures de la vulnérabilité dans le pays et de chercher les moyens pour les donner au service de ce pays, des services de l'État qui s'occupent des aspects sociaux dans le pays. Et pour ce qui est du chômage, c'est la cause majeure de la vulnérabilité de notre peuple. Notre population atteint un niveau de vulnérabilité tel qu'on ne parle même plus de la pauvreté, parce qu'un pauvre, au moins, il peut espérer avoir un dollar par jour.
Maintenant, on parle de quoi?
Mais le vulnérable, la personne qui est précaire, qui ne sait même pas comment il va manger le matin, comment il va dormir le soir, il n'a pas où dormir, il n'a pas comment manger, les enfants, il ne sait même pas s'ils iront à l'école. Et ça caractérise malheureusement une grande partie de notre population, sans oublier ceux qui subissent encore des conflits armés, donc ils se retrouvent encore en train d'errer. Nous les appelons généralement des personnes déracinées. Et donc, le fonds est là, en train de multiplier des efforts pour que le pays ait des moyens afin d'aider notre population à sortir de la vulnérabilité. C'est ça qu'on appelle le relèvement. Et au niveau du ministère des Affaires sociales, l'emploi a été identifié comme la solution absolue. Parce qu'avec l'emploi ou l'auto-emploi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, il y a moyen de se faire de revenus. Et c'est quand on a le revenu qu'on peut avoir l'ambition d'accéder aux services sociaux de base, qu'on peut aller se faire soigner, qu'on peut adhérer à une mutuelle de santé, à une assurance vie et qu'on sort. Et donc, en investissant sur ces questions de l'emploi, quand le chef de l'État a relancé ses dossiers de développement communautaire, et comme il a eu l'appui de la Banque africaine de développement, le Fonds national de promotion et de services sociaux a aussi réveillé un projet qui était déjà au niveau de mise en œuvre avec la Banque africaine de développement dans le cadre d'un aide mémoire qui était signé en 2012 et qui consistait particulièrement à appuyer les services de l'emploi, donc l'ONEM, l'INPP et même les autres services de placement et consorts, à s'atteler sur cette question d'accès à l'emploi. Et c'est ainsi que le grand projet lui-même a fait l'objet d'une étude de faisabilité en 2014. C'était l'étude de faisabilité sur la mise en place d'un portail électronique à accès libre et des équipements nécessaires au niveau national et même provincial pour la mise en place d'un cadre de coordination entre le secteur privé et l'Office national de l'emploi.
Donc ça veut dire qu'au niveau de l'ONEM, il y aura une base de données.
Il y aura une base de données informatisée.
Oui.
Nous avions déjà commencé, donc on a déjà les cahiers des charges. On devait déjà commencer avec la direction générale et quelques provinces. Et nous allons maintenant y aller vite, parce que avec les réformes qui sont au niveau de la formation professionnelle, il s'est fait aussi qu'au niveau du ministère de la formation professionnelle, ils ont sont aussi très avancés.
D'accord.
Voilà pourquoi l'opportunité est donnée pour que nous ayons ce ROM. Et ce ROM, c'est l'outil essentiel de ce portail. Vous vouliez savoir si le portail était un site web. Le site web, c'est le véhicule du portail. Donc, okay. c'est le moyen par lequel le public peut être informé.
Accéder, oui.
Mais en réalité, le portail lui-même, c'est l'espace où l'offre et la demande se rencontrent.
D'accord.
Et c'est ça le grand problème chez nous. Pour avoir l'emploi, c'est des bouches à oreilles, vous le savez.
Mm-hmm.
Mais il faut quand même que quelqu'un avec son téléphone, son Android, il soit capable d'ouvrir un endroit où il la rencontre celui qui offre l'emploi. Ou que lui aussi en offre, parce que bon, un jeune peut aussi être créateur d'emploi. Il doit savoir où est-ce qu'il peut poster son offre pour que les autres puissent accéder à ça.
D'accord. Alors, monsieur le conseiller Philippe Ngouala, aujourd'hui, si un jeune veut avoir un emploi, par exemple, dans les domaines, vous avez parlé du domaine des manioc, la filière manioc, il suffit d'aller dans ce portail, de rechercher les offres et puis il peut retrouver et postuler directement.
Non, c'est d'abord le référentiel. Le référentiel, c'est le contenu. Ok, c'est une approche par compétence. Nous allons travailler, donc nous avons dit que nous avons identifié ces métiers. Nous serons donc en mesure de savoir quelles sont les conditions, quel type de formation et de compétences doit détenir un jeune qui veut devenir un agri multiplicateur de boutures de manioc, par exemple. Dès que ce contenu est fixé, nous allons donc avoir ces référentiels et grâce à ces référentiels, un chercheur d'emploi ou une entreprise qui veut voir s'il existe de compétences sur le marché de l'emploi de jeunes avec ces référentiels, va regarder quelles sont les compétences, les niveaux de compétences qui ont été prévus dans le cadre de ces métiers. Est-ce que nous en avons ces compétences au niveau de la RDC? Nous n'en avons pas.
Donc,
nous
les entreprises vont venir fouiller là-dedans pour trouver les compétences dont ils ont besoin.
Oui, mais écoutez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise veut faire un recrutement, il établit les termes de référence à sa manière.
Mmh.
Ok, je veux un secrétaire, voilà ce que je demande.
Voilà le profil, etc.
Voilà le profil. Mmh. Mais nous devons avoir un profil standard. C'est ça le référentiel des métiers. Ok, nous devons avoir un profil standard de notre pays. Notre pays a un profil pour dire qu'un secrétaire, ok, de direction, voilà le profil qu'il doit avoir. Et voilà les matières qu'il doit avoir lues et qu'il doit avoir compris et qu'il doit avoir dont il doit bénéficier en termes de formation. Et dès que nous avons ces référentiels, nous allons organiser donc cette formation en alternance dans le cadre du programme d'urgence intégrée développement communautaire. Nous avons des financements, le projet a été fini, donc tous ces référentiels vont nous permettre maintenant d'organiser ce développement des compétences dans le cadre de ces programmes-là.
Monsieur Philippe, ce qui fatigue souvent le jeune quand il se retrouve devant une offre, on vous dit il faut 3 ans, 4, 5 ans d'expérience, alors qu'il vient à peine de finir les études à l'université, alors il se sent bloqué.
Non, parce que ce sont des entrepreneurs en fait qui définissent cela. Il nous faut avoir ces référentiels, ok? Dès que nous avons ces référentiels de façon automatique, on saura que pour tel poste d'emploi, voilà les compétences qu'il faut remplir. Et c'est des standards qui sont connus de tout le monde. Ok, c'est au niveau national. On sait que quelqu'un qui veut faire tel travail, tel métier, ou qui veut être, disons, veut être recruté pour tel emploi, doit avoir rempli tel. Ça, c'est des référentiels.
Mmh.
Voilà.
C'est ça change pas, ça reste ces standards, quoi.
Bon, ça pourrait être dynamique dans le temps, mais les référentiels, lorsqu'ils sont établis, ils sont établis.
D'accord. Ouais. On va accueillir les auditeurs déjà qui sont intéressés par ce sujet. Comment faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes? Nous avons en ligne Jonas de Kananga. Orsène nous appelle de Lubumbashi. Jonas, bonjour et quelle est votre question? Bonjour Jonas. Jonas n'est plus là. On va prendre Orsène de Lubumbashi. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour à nos deux invités.
On vous écoute.
Ah oui, monsieur Zodi, merci beaucoup pour la parole. Je suis beaucoup intéressé par ce sujet, vu que ces derniers temps, le taux de chômage dans notre pays s'est plus élevé. Ils n'ont pas à faire, on finit les études, on n'a pas du travail. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué, c'est ce qui pousse qu'il y ait un taux, les taux les plus élevés de criminalité. Quand quelqu'un qui finit ses études, il n'a pas d'emploi, voilà, on a des vagabonds, des chéguins, ainsi de suite, c'est comme ça. Alors, je me rends demander à nos deux invités de nous faciliter. Ce que je comptais dire, vous l'avez déjà dit, nous avons le ministère d'emploi. Quand il y a l'offre, par exemple, dans une société, dans une entreprise, ça passe par l'ONEM. Je ne sais pas si l'ONEM peut commencer à exiger à ces gens-là de diminuer d'autres critères. Parce que ce qui décourage les femmes, ce sont des critères. Il y a trop de critères. Quand vous voyez, il y a quelque part, il faut avoir la maîtrise de ceci, il faut avoir la maîtrise de cela. Et que la personne n'est pas en mesure de remplir ces conditions-là, la personne sera bloquée en idée. Et il va manquer comment postuler. Imaginez, je pars pour déposer une offre, une demande d'emploi quelque part où on me demande l'espérance professionnelle de 5 ans. Tant que moi je vais franchement de l'université, je peux encore faire même une année ou bien 6 mois quelque part. Où est-ce que j'aurai cette expérience-là? C'est ce qui nous bloque. Et la deuxième des choses, je ne sais pas si l'État congolais peut nous faciliter d'évacuer tous les agents de l'État qui ont déjà à l'âge de 65 ans, 60 ans par exemple, parce que selon la Caisse nationale de sécurité sociale, l'INSS, là où j'ai passé mon stage de G3, on m'a dit que pour un pensionné, il faut avoir, pour être pensionné, il faut avoir 60 ans à 65 ans. Donc 60 ans pour une femme et 65 ans pour un homme. Mais je peux vous donner l'exemple de ma mère qui a déjà 66 ans. Elle continue à travailler jusqu'aujourd'hui dans les affaires sociales, une agent de deuxième classe. Je ne sais pas si l'État congolais peut nous aider.
Et envoyer à la retraite.
Oui.
Tous ces agents de
l'État.
Qui vont se libérer pour que les jeunes remplacent.
Pour que les jeunes aussi.
Merci.
Du travail.
Merci, Arsène. Madame Alice Mirimo.
Oui, avec la question de Arsène, je crois que je dois encore revenir sur la notion du portail. C'est effectivement l'absence de ce portail électronique à accès libre pour les opportunités d'emploi et l'absence du ROM, de ces répertoires personnels des emplois et métiers, qui est à la base de tout ce qu'il a évoqué comme problème. C'est même ça le contexte dans lequel on se retrouve et qui a motivé d'appuyer l'ONEM et l'INPP pour ça. J'aimerais revenir sur ça. L'article 13 du Code du travail nous donne un peu le sens de ce ROM. Dans notre code, il n'y a pas nécessairement le mot ROM, mais le mot qui est dans le code, c'est la classification professionnelle et la détermination de qualifications professionnelles pour chaque niveau d'emploi, pour chaque métier et pour chaque profession. Donc, quand déjà nous avons cette classification avec toutes ces définitions par rapport à l'emploi, au métier, aux professions et en donnant les profils et les compétences de chaque niveau, c'est ça le ROM. Or, cet outil n'existe pas. Donc, il faut d'abord partir du départ. Il faut que cet outil qui est demandé d'ailleurs dans le Code du travail puisse être mis en place au niveau des services du ministère de l'Emploi. Deuxième aspect important,
la mise en place est en cours,
savoir,
c'est déjà fait ou c'est en cours?
C'est en cours, parce qu'il y a eu l'étude de faisabilité et maintenant les moyens vont être donnés à tous ces organismes-là pour que l'outil soit là. Et hier, d'ailleurs, quand nous avons parlé avec ces services, on s'est donné un timing d'un mois. D'ici un mois, nous devons présenter à nos autorités, parce que l'autorité qui fait la coordination de ce processus, c'est notre ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Parce que c'est là où est logé le PUDC. Alors, quand nous aurons ce ROM, c'est-à-dire même les services des impôts, va aussi bien faire son travail dans le cadre de l'IPER, l'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur les revenus se calcule sur l'emploi. Mais quand l'emploi n'est pas spécifié, n'est pas connu, la plupart d'entreprises, ils appellent leurs travailleurs des experts, des consultants. Mmh. Un expert et un consultant. En réalité, c'est un emploi de très courte durée. Et c'est le problème, donc, dans la classification des emplois, selon les compétences et les profils qui sont exigés dans le marché de l'emploi, c'est une nécessité pour qu'on parle de la création d'emplois. C'est aussi une nécessité pour avoir des statistiques fiables. Donc, ça va aussi amener l'ONEM à développer son observatoire, parce que l'ONEM a l'observatoire de l'emploi. Mais cet observatoire doit fonctionner selon les offres qui arrivent. Mmh. Et donc, je m'irais préciser en disant que ce portail et le ROM dont nous avons besoin, qui a fait l'objet d'une urgence quand le gouvernement a adopté le PUDC, c'est parce que la finalité, c'est la promotion de l'emploi et l'organisation du marché de l'emploi dans notre pays pour que, grâce à son opérationnalité, l'embauche des demandeurs d'emploi, ce que M. Arsène vient de dire, et l'auto-emploi soit mis dans un système informatisé d'accès à l'information sur les opportunités d'emploi. Vous savez, moi, personnellement, je suis peinée quand je passe devant un chantier d'un opérateur et un mois, six mois après, on trouve déjà tout le monde est là. Il y a le gardien, il y a le réceptionniste. Mais on les a eu quand et comment?
On les a recrutés comment?
On les a recrutés comment? Il faut quand même que tout ça soit connu et qu'on sache où est-ce qu'on clique pour avoir ces informations-là, même si on ne se déplace pas.
D'accord. Avant de donner la parole au conseiller Philippe Ngwala, on va accueillir deux autres auditeurs, Héritier de Bounia et Madame Evelyne de Kananga. Héritier, bonjour. Vous êtes à Bounia. Quelle est votre question?
Bonjour. Bon, j'ai la question. Je voudrais savoir si je vais faire mon entreprise. Nous n'avons pas de bureau de l'ONU dans nos provinces. Est-ce qu'il faut prendre l'avion pour faire une chasse pour se régulariser ou bien est-ce le bureau de l'ONU se décentraliser? La deuxième question que je voudrais poser, pour les gens qui sont dans le bureau, qui ont fait 20 ans dans le bureau, ben, c'est inacceptable. Nous avons des jeunes qui finissent leurs études. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire, ils ne font absolument rien.
D'accord, merci. Orsène a posé également la même question. Les jeunes terminent leurs études, ils n'ont rien à faire dans l'administration. Il y a déjà des personnes qui doivent aller à la retraite, mais qui ne vont pas et les jeunes n'ont pas de place. Madame Evelyne de Kananga, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Très bonjour, je dis Daniel, bonjour à nos invités. En fait, je peux dire, c'est la charge incombe au Parlement. Nos parlementaires doivent voter des lois qui protègent les jeunes. Ils sont là, ils ne pensent pas aux jeunes, alors que quand il y a un problème, quand ils veulent atteindre leurs objectifs, ce sont eux qui les utilisent. Mais ils ne veulent pas préparer l'avenir de ces jeunes gens. Non, ce sont eux qui doivent voter les lois protégeant les jeunes, donnant aux jeunes l'accès aux travail, un travail qui est facile, des conditions qui sont accessibles à tous. Ce sont nos députés nationaux, les partis.
Désolé.
S'impliquer.
Oui.
Ils doivent s'impliquer pour que le jeune soit protégé. Ce sont ces deux catégories-là qui négligent les jeunes, mais qui les utilisent à outrance. Nous leur demandons de s'impliquer et que les députés soient vraiment veillants pour que les lois soient votées afin que les jeunes se retrouvent.
D'accord.
En tout cas, les jeunes, à leur tour, doivent se lever.
Merci, madame.
Faire entendre leur voix.
Merci, madame Evelyne de Kananga. Samuel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Je salue les invités.
Allez-y rapidement, Samuel.
Ah oui, j'ai un rapport avec la thématique du jour. Je voulais un peu avancer une idée. En rapport avec le nombre d'années d'expérience et consorts. Mais ce que je vois, en santé, nous avons vu selon les composantes de centres de santé primaire, en dehors de 8 composantes, on a dit la RDC a ajouté 3 composantes. Parmi les 3 composantes, il y a une autre composante qu'on appelle formation continue du personnel. Donc il est demandé à ce que si quelqu'un est déjà au service, il sera recyclé de temps en temps, débriefing. Maintenant, qu'est-ce qui est difficile à ce que l'État puisse décider aujourd'hui de dire que non, on engage aujourd'hui quelqu'un, mais pendant qu'il est en train de travailler là, il y a possibilité c'est qu'on puisse lui donner des formations pendant qu'il est déjà engagé. Au lieu d'exiger à quelqu'un 5 ans d'expérience au moment où la personne vient de terminer. Et je soutiens aussi la proposition de loi qui est initiée à l'hémicycle par un député national en rapport avec l'emploi des jeunes. Je suis aussi là aussi soutenir ça. Donc dans le sens qu'on puisse engager aujourd'hui les jeunes et que même s'il faut former, il faut que les jeunes commencent à trouver la formation déjà. Parce que donc on crée dans chaque service, on détermine déjà des formations à donner. Au lieu de demander à ces gens-là les 5 ans, on leur laisse d'abord s'adhérer une fois qu'ils sont déjà au service et on commence maintenant à les recycler. Et aussi, l'État ne peut pas être à mesure aussi de déterminer que non, dans tel domaine, nous avons déjà obtenu beaucoup de cadres, donc il faut aussi suspendre d'autres domaines ou soit déterminer les nombres. Parce que de temps en temps, nos universités envoient toujours sur les champs beaucoup de gens dans le marché d'emploi, beaucoup de gens, oh, il n'y a pas de boulot. Est-ce que on ne peut pas aussi interdire à d'autres domaines là, déterminer non, d'autres domaines, on peut.
Merci Samuel de Kinshasa, merci. Abraham, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question rapidement?
Ok, par rapport à la thématique du jour, j'aimerais savoir la mission principale de l'ONEM. Et est-ce que l'ONEM a les prérogatives de signer ou bien de sceller les contrats? Parce que nous voyons que l'ONEM est en train d'embrouiller aussi des entreprises. Ils signent et scellent des contrats, et donc ils n'ont pas même de... des avantages sociaux. C'est vraiment un service de l'État qui embrouille les histoires comme ça, je regrette fort. Et comment il va faire avancer ou plaider pour que les jeunes puissent avoir le boulot? Merci pour cette question.
Bien, merci Abraham Debounia, merci à tous les auditeurs qui ont appelé. Monsieur le conseiller Philippe, à vous la parole.
Oui, j'ai compris toutes les questions posées par Arsène, Héritier, Evelyne, Samuel,
Abraham,
ainsi que Abraham. Oui. Mais je voulais dire que effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire sur l'impulsion du président de la République, chef de l'État, qui a initié ces programmes d'urgence intégrée développement communautaire. Le ROM, répertoire opérationnel des métiers et des emplois, effectivement, c'est cet instrument qui met en présence l'offre et l'emploi et qui détermine déjà les jeux. Hein, qu'il faut jouer entre l'offre et l'emploi. Si les jeunes se plaignent, ils disent, écoutez, on demande de 3 ans,
3 à 5 ans
d'expérience, mais qui les demande? La personne qui les demande parce qu'il établit lui-même, ok, suivant les profils qu'il a établis par rapport à ce qu'il veut voir comme compétence dans son entreprise. Bon, les jeunes qui disent qu'il l'a pas, il n'a pas pu avoir, ce qui va se faire, c'est quoi? C'est que déjà en avance, ces référentiels des métiers et d'emplois permettent de dire pour tel métier ou tel emploi, voilà le niveau de compétences requises. Ok? Le niveau requis de compétences. Et le métier que le jeune a fait, il a subi tel type de formation qui lui a permis d'atteindre tel niveau. C'est connu en avance. Alors, l'offreur d'emploi, c'est-à-dire l'entreprise qui veut faire un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à l'emploi, a en avance ce référentiel qui est public, qui est connu, qui est dans un portail électronique, ok, qui est numérisé.
Si vous avez besoin de maçons,
il doit
avoir tel niveau.
Il va avoir tel niveau. C'est déjà connu. Donc, il établit, son dossier d'appel en fonction de cela. Le jeune connaît en avance que si telle entreprise a besoin d'un maçon de tel niveau, voilà les compétences qui sont déjà, requises. C'est connu en avance. Quand c'est connu en avance, ça met en présence l'offre et la demande de l'emploi et ça règle ce problème des carences d'information. Parce que l'information est connue et chacun sait ce qu'il veut en avance. C'est ce qui établit l'harmonie.
Vous avez besoin d'un informaticien,
voilà.
On sait qu'il a, voilà les critères.
Voilà, un informaticien de tel niveau, voilà les critères. Et il établit cela en fonction de cela. Donc, dans ce portal-là, les jeunes vont accéder, ok, à l'information pour savoir si je prétends, moi, demain matin ou dans quelques jours ou dans quelques mois avoir tel emploi, voilà les conditions que je dois remplir au préalable. Voilà, il les connaît.
Et donc il se prépare en fonction de cela.
Il se prépare en fonction de cela et il sait où est-ce qu'il va obtenir ses compétences. Il n'y a pas que l'emploi, il y a également l'auto-emploi. L'auto-emploi, ça veut dire un jeune qui se prépare à l'auto-emploi dans un métier X. Ok, qui veut créer une entreprise, par exemple, qui veut être un quado, je donne un exemple. Il connaît les compétences requises pour être un quado qualifié. Et donc, toutes ces informations se trouvent dans le répertoire opérationnel des métiers et d'emplois. Et une fois qu'il a atteint ses compétences, il se proclame lui-même comme étant quelqu'un qui a la capacité d'avoir ses compétences. Il crée son auto-emploi en fonction de cela. Mmh. Hier, nous étions en train de discuter, par exemple, vous savez que quand on va au garage, beaucoup de gens disent qu'ils vont voir un mécanicien. Mais il y a une différence entre un mécanicien et un garagiste. Ok, c'est plusieurs métiers à l'intérieur, et le fait qu'on est en train, on a identifié tous ces métiers, on va leur donner un contenu, ça va encore élargir l'assiette pour la création d'emplois massifs décents pour les jeunes. Et c'est ça que le président de la République veut voir se faire à travers le programme d'urgence intégrée développement communautaire.
Alors donc dans ces portails-là, que ce soit les jeunes chercheurs d'emploi ou les recruteurs, tous ils iront puiser des informations dans ces portails.
Absolument. Et c'est une réforme importante qui est en train d'être faite. Si l'État, lorsque l'État, dans quelques, je crois, madame a dit un mois, va se doter de cet outil, ce sera une réforme très, très importante, un outil capital qui va maintenant placer une ligne de départ pour la création d'emplois massifs, effectivement.
Bien, Madame Alice, beaucoup de jeunes sont revenus sur le fait qu'ils sont jeunes, ils ont de l'énergie dans l'administration publique. Il y a des gens qui ont l'âge d'aller à la retraite, mais ne vont pas toujours à la retraite et les jeunes sont bloqués.
Parce que la plupart des jeunes, moi-même je suis jeune, hein, on pense à aller seulement au bureau. Mais il y a des jeunes, il y a maintenant une catégorie de jeunes qui estiment qu'eux aussi peuvent créer leur propre bureau. Par exemple, les startups, vous êtes en train de voir comment ils sont en train de faire des innovations et tout. Donc, moi, je demande toujours aux jeunes, étant moi-même jeune, et jeune femme surtout, d'être créatifs, d'être imaginatifs. Nous faisons l'université, c'est pour créer. C'est pas nécessairement pour aller dans le bureau. Et j'aimerais ajouter à ce que le conseil spécial vient de dire, c'est qu'au-delà du profil, des compétences, de cette liste de métiers et des emplois, il y aura aussi une fenêtre pour la formation professionnelle et la préparation même professionnelle. Cette fenêtre permettra, parce que dans le portail, c'est ce que j'ai dit, c'est les lieux où les deux vont se rencontrer, l'offre et la demande. Même les sociétés souffrent du fait qu'ils n'ont pas où puiser les bonnes compétences. Et donc, quand le demandeur fait entrer son profil dans ce portail, le profil va être situé. Parce qu'il va introduire son CV et il y a un mécanisme à l'intérieur qui va aider les demandeurs à se situer. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il a le profil requis? Dès qu'il voit qu'il n'a pas le profil requis, dans le portail, il sera orienté vers les structures, les centres de formation professionnelle pour le mettre à niveau.
Et ça va résoudre le problème. Donc les jeunes peuvent poster leur CV là-bas.
Oui, il y aura tout ça. C'est-à-dire, c'est une fenêtre qui s'ouvre et aux demandeurs d'emploi et aux recruteurs. Et pour le demandeur d'emploi, l'avantage, c'est qu'il peut avoir la possibilité de voir une opportunité d'emploi. Et s'il n'est pas à la hauteur d'occuper cet emploi, il a une autre fenêtre pour être mis à niveau. Donc, tout d'un coup, ce portail électronique va aussi résoudre ce problème d'expérience professionnelle qui est exigé, parce qu'il y aura la possibilité d'être mis à niveau, soit avant l'embauche, soit pendant la période d'essai. Et donc, nous avons tous intérêt à ce que ces dispositifs soient mis en place. C'est un préalable important pour que nous puissions prétendre à la création des emplois.
Bien, on a suivi quelqu'un dire tout à l'heure, s'est posé la question de savoir quelle est la mission de l'ONEM, qui signe même des contrats, je ne sais pas comment l'ONEM arrive à signer les contrats. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Madame Alice?
Je pense que comme nous sommes en train de commencer un processus, nous allons nous organiser avec la radio Capi pour que chacun de ces services vienne parler de sa mission. En général, l'ONEM, c'est ça le service qui gère le marché de l'emploi, l'offre et la demande. C'est même ce service qui agrée les services de placement. C'est ce service qui surveille la situation de l'emploi. Et il faut lire le code du travail. Le code du travail donne les attributions de tous ces services-là. Mais comme on aura des occasions de donner le plateau à chacun de ces services, de venir expliquer son mandat, je pense qu'ils peuvent patienter un peu. Ils auront l'opportunité de parler à la DG de l'ONEM, au DG de l'INPP, aux directeurs et aux secrétaires généraux qui sont dans ces services-là, formation professionnelle, emploi et jeunesse. J'aimerais, moi, rassurer les jeunes qu'ils ont intérêt à soutenir ce processus. Et pourquoi j'insiste, pourquoi ce processus se retrouve au ministère des Affaires sociales? C'est parce que quand le chef de l'État considère le chômage comme étant la cause majeure de vulnérabilité et qu'il y a un ministre au niveau de son gouvernement qui s'occupe des questions de vulnérabilité, le ministère des Affaires sociales, dirigé par le ministre Moutinga. Beaucoup de gens le voient sur le terrain pour les aspects humanitaires.
Oui.
Mais maintenant, si pour qu'on a, on évite de plonger tout le monde dans la vulnérabilité, il faut qu'on s'attaque aux causes majeures. La cause majeure, c'est le chômage. Et donc, ce ministre est chargé de coordonner ce processus pour que tous les ministères qui doivent réguler, suivre et s'assurer que l'environnement économique dans notre pays est favorable à la création d'emplois et à la promotion des opportunités de formation professionnelle, nous sommes vraiment très engagés. Et j'aimerais rassurer les jeunes que les FNPCS est de leur côté maintenant. J'ai besoin qu'ils nous tiennent main dans la main. Et nous allons bientôt organiser, un atelier.
Oui.
Le ministre des Affaires sociales va les appeler tous à l'atelier pour que nous puissions valider ensemble la méthodologie et le contenu qu'eux attendent de ce rhum. Parce que le processus est participatif et on veut toujours s'assurer que ce que nous faisons répond réellement aux besoins des bénéficiaires. Et donc, ils peuvent être calmes et s'assurer que leurs représentants qui parlent à leur nom vont réellement faire passer leurs attentes et les besoins qu'ils attendent. Et les questions de retraite, oui, il y a le ministre de la fonction publique qui peut y répondre. Il y a aussi même le ministre de l'Emploi qui peut y répondre.
Madame Alice, est-ce qu'il n'y aura pas quelque part conflit de compétences entre le ministère de l'Emploi et le ministère des Affaires sociales?
Il n'y en aura pas parce que le ministère des Affaires sociales est dans la coordination de l'action sociale. La coordination de l'action sociale signifie quoi? Signifie que les services sociaux de base sont gérés par des ministères sectoriels. Je parle de la santé, de l'éducation. Ici, on est sur la question de l'emploi. Et le ministre des Affaires sociales a la mission de s'assurer que la population va réellement jouir de ses services sociaux de base. Donc, c'est de son obligation de dire à chacun d'eux que non, chers collègues, la santé, là, en tout cas, plusieurs n'y accèdent pas. Mettons-nous sur la table et organisons-nous. Mais à la différence, c'est que les services de l'emploi, ce sont ces services qui vont bénéficier du renforcement des capacités pour que leur offre dans cet environnement économique qui a besoin d'être profitable à toute la population puisse être fait. Et
D'accord.
C'est ça le rôle maintenant du FNPCS qui va collecter les moyens pour mettre à la disposition maintenant de ces services, pour que ces services soient à même de répondre aux attentes de la population.
D'accord, on s'achemine vers la fin de cette émission. On va prendre la dernière vague des auditeurs. Patient Etakindou Albert de Kananga et Pierron Ntumba de Kananga. Patient, bonjour.
Bonjour, cher invité.
Quelle est votre question?
Je remercie beaucoup nos invités pour leurs interventions. Et je remercie aussi parce qu'on est en présence du conseiller des chefs de l'État.
Patient, quelle est votre question? Quelle est votre question rapidement?
Ma préoccupation est seulement, aujourd'hui, ce sont les politiciens qui sont à la base du chômage des jeunes. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple de mon quartier. Je suis à Kindu, dans notre quartier Togoloté. Vous trouverez, il y a seulement les jeunes qui créent des générations uniquement pour les politiciens. Il crée ça pourquoi? Et quand les politiciens quittent Kinshasa vers Kindu, ils appellent ces générations-là, ils accueillent, et dans ces
pour aller les applaudir.
Alors, il n'y a même pas de des encadrements.
D'accord.
Merci. Vous trouverez même à Kinshasa, il y a des parlementaires debout. Dans ces parlementaires debout, vous trouverez, ce sont les intellectuels qui sont là.
Merci, patient de Kindu. D'accord, on a compris. On va donner la parole à Albert de Kananga. On n'a plus beaucoup de temps. Bonjour, Albert.
Bonjour, M. Jody, et bonjour aux invités.
Rapidement, quelle est la question?
Oui, ma question va directement à celui qui est chargé de la promotion, des fonds de promotion, là. Oui. Je pense que de la fois passée, le président en a parlé ici quand il était de passage dans notre province ici. Mais 5 mois après, on constate que les activités sont à quel niveau? Est-ce c'est déjà mis en œuvre ou comment? Parce que jusque-là, on ne sent presque rien. On ne sent pas la population.
Vous parlez du fonds de promotion de quoi?
Oui.
De l'emploi?
Le fonds de promotion. Oui. Le fonds de promotion que le président avait dit la fois passée qu'on doit octroyer aux jeunes pour l'entrepreneuriat, oui.
Fonds de promotion de l'entrepreneuriat.
Oui. Jusque-là, on ne sent rien, M. Jody. Vraiment, ça, c'est...
Merci, Pierrot. Oui, le conseiller va répondre tout à l'heure. Pierrot Ntumba, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité.
On vous écoute,
merci
Pierre.
Merci beaucoup pour la thématique qui est vraiment très, très intéressante et surtout que je suis jeune.
Quelle est la question, Pierrot? Quelle est la question?
Monsieur Jody, je voulais demander, demander à l'invité quelle est l'importance de l'État moderne dans l'État moderne que nous sommes. Quelle est l'importance par rapport au marché? Nous avons ici un problème de l'emploi. Aujourd'hui, il y a un confrère qui en a parlé que pour un État comme nous sommes, la RDC, l'État devrait toutefois, donner des subsidies, quoi? Substitution. L'État devrait subsidier aux entreprises pour créer de l'emploi. Non seulement créer des emplois, et aussi l'État devrait créer ses propres emplois.
Aujourd'hui, alors, passez à la question maintenant.
Oui, pourquoi il parle seulement de l'expérience dans le cadre des profits de chercher de l'emploi pendant que les universités créent des élites ou des gens qui méritent de l'emploi pendant que la formation des jeunes est taillée déjà par rapport aux besoins que l'entreprise de la place a besoin.
Pourquoi d'accord, merci Pierrot, merci beaucoup à Monsieur Philippe Ngwala, vous avez suivi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui ont posé cette question?
Je dirais que leurs préoccupations, effectivement, leurs préoccupations sont en train d'être rencontrées parce que pour promouvoir de l'emploi et l'auto-emploi, il est important de savoir qu'il faut créer les cadres propices. Ok, l'environnement propice à la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi. Ce que nous sommes en train de faire, ici je vais me concentrer sur ce que nous sommes venus dire ici, c'est le répertoire opérationnel des métiers. Ça fait donc partir de ces réformes qui sont en train d'être mises en place pour créer un environnement propice à la promotion de l'emploi. Il y a un auditeur qui a également parlé de fonds, j'ai pas bien compris, fonds
de garantie. Les fonds de promotion de l'entrepreneuriat.
Je voulais dire que dans le cadre du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, effectivement nous sommes en train de travailler sur la création de ce fonds de développement communautaire qui aura donc deux volets, un fonds de garantie et un fonds d'investissement pour accompagner donc la promotion des start-up mais également de promouvoir l'auto-emploi pour les jeunes. Donc tout cela c'est en train d'être fait et je crois que toutes les préoccupations qu'ils ont
soulevées. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le Parlement devrait aussi voter des lois pour protéger les jeunes, tout ça.
Oui, je pense
pour
que...
Pour l'emploi des jeunes, promouvoir l'emploi des jeunes.
Oui, mais écoutez, les réformes, elles sont sectorielles. Hein. Elles commencent au niveau du gouvernement. Chaque ministère a ses mandats dans ce qui les concerne. Et après avoir donc adressé tous ces besoins de réformes, hein, je pense que le Parlement joue également son rôle pour ce qui concerne, pour faire voter les lois, hein, qui contribuent également à la mise en œuvre de ces réformes. Pour l'instant, donc, c'est une réforme sectorielle. Nous sommes en train de nous doter de cet outil, le répertoire opérationnel des métiers. Ça a déjà été prévu dans les lois, madame l'a dit ici. Voilà, il a évoqué l'article. Tout cela a déjà été prévu et nous sommes en train donc de mettre en œuvre. Après la loi, il y a des mesures d'application et puis il y a l'application qu'il faut faire. Donc ces instruments que nous sommes, les répertoires opérationnels des métiers que nous sommes en train de concevoir ici pour doter l'État de cet instrument important est prévu par le code du travail.
Madame Alice Mirimo, alors quand est-ce que ce portail sera opérationnel? C'est ça la grande question.
C'est la grande question. Je dois rassurer l'opinion que tous les marchés ont déjà été passés parce que au niveau du gouvernement, parce que le gouvernement prend en charge une bonne partie de la mise en place de ce portail. Hein. Et il était question de lancer des marchés. Tout ça a déjà été fait. Donc, les sociétés qui vont fournir ces équipements informatiques à l'ONEM ont déjà été recrutées. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Dès que nous avons ce répertoire opérationnel, parce que je vous ai dit que c'est l'outil principal de ce portail, nous passerons directement à la phase d'installer les logiciels, les équipements nécessaires au niveau de l'ONEM. J'aimerais aussi préciser que cette action en rapport avec la mise en place d'un fonds de garantie, d'un fonds de développement, est en train d'être développée au niveau du Fonds national de promotion de services sociaux parce que cette entreprise a la mission de jouer le rôle de banque sociale. Et ce rôle de banque sociale consiste surtout à donner cette garantie qui manque aux entrepreneurs qui sont souvent dans une situation de précarité vous connaissez, je peux vous donner l'exemple des chailleurs, des Mahamalewa et tout. La plupart ne sont pas acceptés dans les banques pour avoir les crédits parce qu'on leur exige la garantie.
Et ceux qui font des petits métiers.
Ceux qui font des petits métiers. Donc le FNPC s'est déjà investi. Nous avons déjà une étude de faisabilité pour ça qui a été faite par une société de la place, le PwC. Et donc bientôt, nous allons solliciter un plateau uniquement pour leur expliquer comment ce fonds va être opérationnel et comment nous allons collaborer avec les banques pour que nous soyons les premiers à donner, à soutenir les start-up qui sont là, les jeunes qui sont déjà, qui ont des innovations. Et donc, je voulais vraiment rassurer les jeunes, les femmes, que cette réforme va répondre quand même à un certain nombre d'attentes et de revendications qui ont été enregistrées pendant très longtemps et qui pourront trouver une solution très, très bientôt. Le Fonds national de promotion des services sociaux est maintenant dans toutes les provinces. Donc, bientôt, nos représentants vont se faire connaître pour que nous soyons réellement à la porte et la bouche autorisée pour amener les problèmes des plus démunis, de ceux qui se recherchent à des instances beaucoup plus élevées et que nous puissions trouver des solutions ensemble.
Bien, merci Madame Alice Miri-Moncabetti, directrice générale du Fonds national des promotions et des services sociaux. Merci également à Monsieur Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous allez revenir prochainement pour annoncer quand ce portail sera opérationnel.
Merci.
Très bientôt.
À la prochaine.
Merci.
Okapi Service, Service Plus.
Okapi. En RDC, les données sur les tabagismes ne sont pas toujours disponibles, ce qui rend difficile la mise en place des politiques efficaces pour lutter contre le tabac. Ces fléaux qui fait de nombreuses victimes à travers le pays et en RDC en particulier. Et dans le but de résoudre ce problème, l'organisation américaine dénommée Tobacco Control Data Initiative vient de lancer un programme de collecte des données sur terrain à travers le pays. C'était au cours d'un séminaire organisé le 24 et le 25 dernier ici à Kinshasa. Je vous invite à suivre cet entretien que nous avons eu avec Monsieur Christos Midero, représentant de Tobacco, de cette organisation dénommée Tobacco Control Data Initiative Development Gateway. Suivez. Nous allons parler du séminaire de validation du rapport et du lancement du programme Tobacco Control Data Initiative. Nous allons en savoir plus avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Christos Midero, représentant de TCDI, Development Gateway, en République démocratique du Congo. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
D'abord, pouvez-vous nous présenter votre organisation dénommée TCDI?
L'organisation en question, c'est Development Gateway, c'est une ONG américaine. Et actuellement, nous travaillons directement avec le ministère de la Santé dans un programme de lutte contre le tabagisme qu'on nomme TCDI, Tobacco Control Data Initiative, qui veut dire que c'est un programme qui va plus se focaliser sur la collecte des données et envie de disponibiliser ça au gouvernement pour lutter contre le tabagisme en RDC.
D'accord. Vous avez organisé dernièrement un séminaire de validation du 24 au 25 mai, validation du rapport et lancement du programme. Alors, dites-nous, de quoi s'agissait-il?
Oui, le point de départ, puisqu'il y a une problématique sur la disponibilité des données en RDC, puisque prendre des décisions par le gouvernement ou bien les politiques, là, il faut avoir des données. Alors là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de données sur le tabagisme. Alors, c'est pourquoi, quand on a commencé les projets, d'abord la réflexion du projet, on avait dit que les premiers points, c'est d'abord collecter les données. C'est ainsi que on a commencé entre mars et avril, on a commencé par les évaluations. Et là, c'était avec les acteurs clés qui interviennent spécialement dans la lutte contre le tabagisme en RDC. Et là, on a essayé un peu d'interviewer presque tous les acteurs. Et là, c'était classifié en 4 classes. Il y a les académiciens, ça veut dire les chercheurs des universités. Il y a les ONG, il y a les OSC, ça veut dire que les organisations de la société civile et les gouvernements. Et là, on a essayé un peu de les interviewer dans le but de voir qu'est-ce qui manque. Ça veut dire que les gaps en données en RDC, et spécialement dans la lutte contre le tabagisme. C'est ainsi qu'on a élaboré un rapport d'évaluation. Et là, on les a invités pour venir valider ces rapports. Et c'est ce qui devrait directement... ouvrir ou bien lancer les projets en question en RDC. En bref, c'est ça.
D'accord. Et quel était, en quelques mots, l'essentiel de ces rapports? Qu'est-ce que vous avez apporté comme information?
Oui, en termes de des informations clés de ces rapports, il y a eu les défis. On a essayé un peu d'identifier les défis qu'on a dans la lutte contre le tabagisme. Il y a deuxième point, c'était les priorités. Quelles sont les priorités pour arriver à lutter contre le tabagisme en RDC? Et vers la fin, il y avait donc les grands thèmes prioritaires. C'est-à-dire que ce sont là les besoins qu'on a essayé un peu de hiérarchiser pour arriver à lutter contre le tabagisme en RDC.
Oui, et quels sont les défis, les grands défis du donc, tabagisme les grands en défis, RDC?
Les grands défis, il y a les commerces illicites et la contrebande, il y a la taxation. Il y a des problèmes aussi de taxation, puisque là, c'est vraiment inconnu. Et il y a aussi d'autres problèmes, par exemple, liés donc à la non-connaissance de la concentration en nicotine et goudron des différents produits qui circulent en RDC, spécialement des produits tabacicoles. Le rapport a été validé, et là, il y a eu des thèmes qu'on a, vers la fin, déterminés. Entre autres la prévalence, donc la détermination de la prévalence du tabagisme, puisque c'est pas connu jusqu'à présent. Il y a aussi la morbidité. En termes de morbidité, parce que là, on devrait lier la prévalence du tabagisme avec les différentes maladies non transmissibles. Et là, on a élaboré autour de ces thèmes. Et les sept thèmes feront partie directement des collectes de données. Et là, on va essayer un peu de choisir, puisque la RDC est tellement grande. Collecter les données sur toute la RDC aussi, c'est pas facile. Alors là, on va essayer un peu de choisir les grands thèmes prioritaires, envie d'arriver à collecter les différentes données primaires. Et là, on va créer un site web, puisque vers la fin, il y aura un site web qui va servir comme outil d'information du gouvernement et autres parties prenantes, envie de voir si on peut commencer déjà à prendre des décisions sur base des données collectées sur le terrain.
Vous l'avez reconnu, le pays est trop grand. Comment se fera la collecte de ces données sur le tabagisme?
Oui, en principe, la collecte des données, et on va donner les marchés aux firmes ou bien aux bureaux d'études des universités et qui vont nous aider à collecter les données. Et là, il y aura des appels à projets. Et là, il y aura les proposals. Et vers la fin, on va sélectionner. Et là, on va donner les marchés sur base de la méthodologie et partie financière. Ça veut dire que vers la fin, on va disponibiliser ces données et les sites web, on va donner ça au gouvernement, spécialement au ministère de la Santé, à partir du programme PNL-CT.
C'est un programme de combien d'années? Vous serez seulement à Kinshasa ou bien vous aurez d'autres représentations à travers le pays?
C'est un programme de 3 ans, de 3.5 ans. Et là, nous serons sur toute l'étendue de la RDC. Mais les bureaux, en principe, les grandes activités, c'est à Kinshasa.
Alors, quelles sont les retombées ou l'impact que ces données peuvent avoir sur la situation, sur la présence du tabac en RDC?
Et en principe, ces données serviront, en principe, pour prendre des décisions. Ça veut dire que ça sera une base pour convaincre le politique à prendre des décisions. À part ça, ça sera aussi un moyen pour les plaidoyers, pour la collecte de fonds, spécialement avec les OEC, parce que les OEC ont fait entendre qu'il y a les problèmes manque de financement. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment assez d'activités pour arriver à sensibiliser les jeunes et à mener d'autres activités pour lutter contre le tabagisme. Ça veut dire qu'avec les données, ça sera vraiment une base pour aider les OEC à mobiliser aussi les fonds, mais aussi d'un autre côté, aider les gouvernements à prendre des décisions.
Monsieur Christos Midero, représentant du programme dénommé Tobacco Control Data Initiative Development Gateway, merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Marcel Ngombo a assuré la coordination et la réalisation. Dieudonné Nyangassé à la mise en onde au micro, jeudi Daniel Kachaman. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. À la prochaine.